Chapitre 27. Chrysante nue. Une foule de gardes, de cadres, de responsables en tout genre marchait à pas pressés dans la longue galerie des huissiers du palais impérial. Tous tentaient de suivre le fauteuil de Génor et de bénéficier de quelques secondes de conversation avec l'empereur, de glisser une information, d'obtenir une réponse. Le grand serf lançait ses ordres à la volée, sans même ralentir, sautant d'un sujet à l'autre. La gestion du stock des moissons avant l'hiver, une épidémie de grippe dans la corporation des bûcherons, le nouvel hymne impérial composé par Soutim, la liste des futurs décorés des bois d'honneur lors de la veillée du sanctuaire. Chacun repartait, satisfait d'un mot, impressionné par la capacité de l'empereur en un éclair à tout retenir, analyser, trancher. Pour s'approcher du fauteuil roulant impérial, Isali s'écarta une poignée de conseillers de la banque du Nouveau Monde.
« Oh, Génor, il faut que je te parle. »«
Je t'écoute, » répondit l'empereur.
« Pas ici. Pas avec cette foule de rapaces autour. »
Le grand serf évalua d'un regard l'urgence de la demande d'Isalis, puis fit signe à Django et Idriss de bloquer les seins de sous-chefs gravitant autour de lui. Son fauteuil continua de rouler, et il se retrouva avec la consule à l'instruction du peuple et aux distractions pour seule interlocutrice. « Qu'y a-t-il de si urgent, Isa ?»«
La propagande, Ogénor. L'instruction du peuple. La nouvelle feuille de chou doit paraître demain matin et cette traîtresse de Constel nous a filé entre les doigts lors de l'assaut de la corporation des teinturiers. »«
Remplace-la par une autre journaliste. » Le fauteuil roulait toujours vers l'aile droite du palais.
« Ce n'est pas si facile. Dans les corporations, on ne parle que des 15 morts noyés. » La rumeur enfle, impossible de ne pas l'évoquer dans le journal, mais il faut trouver les bons mots.
Il suffit d'écrire ce qui s'est passé. Et écris-le toi-même, une consule doit savoir faire ça. La propagande, ce n'est pas mentir pour transformer la vérité, c'est agir pour que la réalité devienne celle que l'on veut qu'elle soit. Et la réalité, demain, ce sera la peur. Parce que personne ne doit douter que ses 15 compagnons sont vraiment morts. Isali eut à peine le temps d'acquiescer avec un oui de la tête que le général Novak sprintait pour obtenir lui aussi un furtif tête-à-tête avec l'empereur.
« Grand serf, que fait-on des prisonniers? Je veux parler de... nos vieux amis ?»«
Nos vieux amis ?» Novak souleva son bandeau noir pour dévoiler son œil de verre brisé.
« Tu sais bien, ceux avec qui on a grandi, Osman, Liu, et ceux du Tipeee aussi, Wayne, Gulo. »
Ogénor s'agaça. Il atteignait au bout de la galerie la porte d'un ascenseur.
« Tu veux qu'on organise un goûter pour discuter de nos souvenirs d'enfance ?»
Novak toussa.
« Non, je pensais que... Que je pouvais passer leur souhaiter la bienvenue dans leur nouveau cachot.
On verra. L'urgence n'est pas là. Mes instructions, tu les connais. Les garder vivants, tant qu'ils n'ont pas tout avoué.
Justement, à propos de ça, je voulais...
Génor le coupa à nouveau, paraissant lire dans ses pensées.
En savoir davantage sur cette boussole qu'ils ont volée?
Contente-toi d'évoquer la rose des vents. Ça te suffira et ils comprendront.
Je veux savoir où ils l'ont caché.
Avec l'aide de Galien, d'Orphéo et de tous les autres tortionnaires pervers et détraqués du Troisième Empire, tu devrais arriver à délier la langue de nos vieux amis.
D'un geste de sa canne, Ogénor signifia à Isalis et Novak que l'entretien était terminé.
Idriss et Django se positionnèrent derrière le fauteuil roulant pour éviter que de nouveaux importuns se rapprochent. L'empereur ouvrit la porte de l'ascenseur, entra, accompagné de ses deux gardes du corps, et la referma aussitôt. Les sous-sols du palais n'étaient pas éclairés. Django et Idriss portaient chacun une torche de chaque côté du fauteuil de l'empereur. Ils progressèrent une centaine de mètres dans les galeries souterraines, avant qu'un cri ne déchire la nuit.
Où est Séléné?
Du fond de sa prison, Chrysante avait hurlé dès qu'elle avait aperçu les lueurs des flammes. Le grand cerf roula jusqu'à sa cellule, une pièce directement creusée dans le sous-sol, fermée par une grille de fer. L'empereur laissa traîner son regard sur les longues chaînes et les boulets d'acier accrochés aux chevilles de Chrysante et Bile.
« Je suis désolé, » fit-il. « Le général Novak a un peu trop tendance à apprécier la mode médiévale. Vous voyez, les armures, les oubliettes, les chevaliers et les fers aux pieds. »
Il ordonna à Django d'ouvrir la grille et avança de quelques mètres. Chrysante tirait sur sa jambe avec l'énergie du désespoir, des contorsions pathétiques et dérisoires. Le boulet accroché à sa cheville, bien trop lourd, paraissait collé au pavé.
« Je veux voir ma fille !»«
Sélénée n'est pas ta fille, » sourit le grand cerf. Chrysante secouait toujours sa chaîne avec frénésie. Ses doigts ensanglantés essayaient d'écarter les maillons.
« Je te préviens, Augénor, si jamais tu lui fais du mal... »«
Pourquoi ferais-je du mal à mon enfant ? Assure-toi, elle est bien traitée et bien entourée. Mes nourricières sont ravies de s'occuper d'elle. »
« Sélénée n'a pas besoin de nounou. Je suis sa seule maman !»
Chrysante tirait toujours sur son boulet à s'en rompre la cheville. Si on lui avait proposé de se couper la jambe, elle aurait accepté.
« Salaud ! Rends-moi ma fille !»«
N'abuse pas de ma patience. J'aurais déjà dû te tuer. Vous tuez tous les deux, pour être précis. »
L'empereur parut remarquer pour la première fois la présence de Bill. L'homme à la cape de tigre, en bandant tous ses muscles, était parvenu à faire rouler son boulet sur quelques centimètres. Il réussit à attraper la main de Chrysante, mais elle la repoussa avec dégoût, sans lui jeter le moindre regard.
« Nous tuer !»
répéta Chrysante.
« Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Qu'est-ce que tu attends ?»
Augénor hésita, surpris par son audace.
« J'attends d'en savoir un peu plus sur la prophétie. »
Chrysante sentit qu'elle avait repris l'avantage.
« Toi, tu crois aux prophéties ?»«
Disons que je m'en méfie. »« Trois destins, trois rois, » récita Augénor. « C'est bien cela. Celui qui partira est évidemment Jeanne d'Arc. Reste à savoir qui mourra, Bill ou Akan. Si je tue Bill, alors, selon ta prédiction, Akan règnera.
Oh, je n'ai aucune envie d'alimenter ce genre de superstition. Autant tuer Akan quand il le faudra.
Après tout, King Bill, si tu devenais raisonnable, je trouverais bien une contrée lointaine pour te nommer roi. »
Il jeta un coup d'œil méprisant sur la couronne d'osier posée dans la poussière de la cellule. Bill avait encore gagné quelques centimètres au prix d'une entaille profonde au pied droit. Ils échangèrent un regard noir. Tous les deux savaient qu'une haine irréconciliable ferait toujours d'eux des ennemis mortels. Une haine qui portait un prénom, Mordelia.
« Et moi ?»
cracha encore Chrysante.
« Je te sers à quoi ?»«
À rien. »
Augénor fouilla dans sa poche et lança à la fille une petite clé d'argent. Sa taille correspondait au trou de la serrure dans sa chevillère de fer.
« Libère-toi et viens avec moi. »
Escorté de Django et Idris, Augénor et Chrysante traversèrent la longue galerie, les salons du Capharnaüm, des officiers et des consuls, pour se retrouver face à une vaste porte de bois ouvragée. Les deux gardes restèrent en faction devant la porte que le grand cerf referma derrière lui. Chrysante observa l'étrange pièce dans laquelle elle était entrée. Une salle carrée, couverte de faïence bleue, dont la surface était presque intégralement occupée par une piscine fumante. Un pas de plus, et elle tombait dans l'eau.
« C'est quoi ? »
demanda-t-elle.
« Une salle de bain géante ? »
Dans le monde d'avant, on appelait cela un spa, ou un hammam. « Je t'en prie, déshabille-toi. »
Chrysante dévisagea Augénor. Elle était seule avec l'empereur. Elle pouvait se jeter sur lui et essayer de l'étrangler, ou renverser son fauteuil, le pousser dans l'eau et tenter de fuir. Mais peut-être était-ce le prétexte qui l'attendait. Pour siffler ses gardes, pour abattre sa canne, pour l'exécuter, elle ne bougea pas. Elle se fichait de mourir, mais elle voulait revoir Sélénée.
Déshabille-toi, répéta l'empereur.
Que je retire ma veste? Mes bottes?
Mon pull aussi?
Augénor regarda un instant les vêtements élimés de Chrysanthe, son pull maculé de taches de teinture enfilées sur un chemisier et sa robe tablier.
Oui, et tout le reste. Déshabille-toi entièrement.
Chrysanthe roulait des yeux éberlués. Se déshabiller devant ce malade?
Ne t'inquiète pas, ajouta le grand cerf. Je ne vais pas te toucher. Je dors avec Diamante chaque nuit. Ne va pas imaginer que je puisse désirer une fille comme toi.
Tout en faisant passer son pull par-dessus sa tête, Chrysanthe explosa.
Parce que tu crois qu'elle peut désirer un gars comme toi? Regarde-toi! Tu n'es qu'un pauvre type incapable de se tenir debout. Une espèce de robot d'acier dont les composants ont grillé. Un gamin taré, rongé par ses névroses. Un psychopathe qu'on aurait enfermé dans le monde d'avant.
Elle laissa glisser sa robe sur ses jambes maigres de cigogne.
Continue,
fit Augénor, impassible, jusqu'à ce que tu sois nu. Chrysanthe, et larmes aux yeux, ouvrit chaque bouton de son chemisier.
Marilune le savait forcément. Votre maman à tous. Comment a-t-elle réagi quand elle s'est aperçue qu'elle avait couvé un monstre?
Elle dégrafa son soutien-gorge à poids, fit tomber sa culotte à carreaux vichy, dissimulant son intimité avec ses bras et ses mains sans cesser de parler.
Quand elle a compris que ton cerveau était détraqué, est-ce que Marilune a continué de te protéger? Ou bien est-ce qu'elle a essayé de te tuer? T'en souviens-tu au moins? Oui, bien sûr. Même si c'est loin, on n'efface pas ces souvenirs-là.
Elle crut apercevoir un reflet humide perlé dans la pupille de Génor. Un instant, elle fut persuadée d'avoir deviné la vérité avant que l'empereur se fige à nouveau dans son masque de cire.
Recule-toi. Ce sont tes vêtements qui m'intéressent, pas toi.
Chrysanthe s'éloigna de la piscine et se colla au mur le plus proche. Elle frissonna au contact des carreaux bleus contre sa peau. Augénor, du bout de sa canne, souleva son pull, sa chemise, ses sous-vêtements, sa robe. Un grand sourire illumina son visage.
Une double poche, cousue à l'intérieur de ton chemisier. J'en étais certain, petite rusée.
Le grand cerf posa sa canne, déchira le tissu et attrapa entre ses doigts une feuille de papier pliée.
La fameuse page 17. La page manquante du cahier de Pierre-Sol.
Il sortit de sa poche une boîte d'allumettes. J'étais persuadé que tu la conservais sur toi. À qui d'autre l'aurais-tu confiée?
Bill? C'est l'aîné?
Tout comme je suis persuadé que tu n'as révélé à personne notre secret.
Avec qui l'aurais-tu partagé?
Augénor lut avec attention la feuille avant de gratter une allumette. Le grand cerf tint le papier enflammé dans sa main jusqu'à ce que le feu lui lèche les doigts.
Maintenant, je n'ai plus besoin de toi.
Tu vas me tuer?
Il fixa avec mépris la fille dénudée, recroquevillée entre la piscine et le mur carrelé. Comment croire que cette gamine chétive était la seule à avoir représenté un véritable danger?
Oui, sûrement, mais rien ne presse. Là où je vais t'enfermer, tu ne parleras plus jamais à personne.
Habille-toi.
Il attrapa ses vêtements avec sa canne et les uns après les autres les jeta à ses pieds. Avant que Chrysanthe se baisse pour les ramasser, il l'interpella une nouvelle fois.
« Attends, j'ai un cadeau pour toi. »
Il fouilla sous son fauteuil roulant. Avec la même désinvolture, il lança un objet dans sa direction. Un objet mou qui tomba sans un bruit. Une poupée. Lali.
Augénor se retournait déjà. « J'ai retrouvé ma fille, tu as retrouvé la tienne. N'est-ce pas mieux ainsi ?»
Il frappa à la porte du spa.
« Excuse-moi, je dois me rendre auprès des nourricières au sérail. Nous y recevons une invitée de marque. »
Chrysante ne l'écoutait pas. Django et Idris entrèrent. Chrysante ne les regardait pas. Elle n'avait pas pris le temps de s'habiller et serrait contre sa poitrine sa poupée.
« Lali, ma Lali, tu vois, je ne t'ai pas abandonnée. Maintenant, on ne se séparera plus jamais. »